Paul Devendre, vous êtes auteur et acteur du spectacle, célèbre spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, un spectacle en trois opus quand même, une BD aussi en trois tomes dont on va reparler tout à l'heure, un spectacle qui parle des relations entre hommes et femmes, mais donc auteur et acteur de cette pièce, auteur de cette BD, mais vous êtes aussi quelqu'un qui s'intéresse fondamentalement aux relations humaines et notamment aux relations hommes-femmes.
Mais c'est un sujet sur lequel je suis tombé un petit peu par hasard en écoutant John Gray, en entendant John Gray à une conférence aux États-Unis en 96. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. J'étais un peu sceptique au départ parce que je me disais que c'était sûrement pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois, que ça ne devrait pas correspondre à notre culture européenne. Et puis, moi, j'étais marié depuis 2 ans à l'époque, donc je n'avais pas trop de problèmes. En 2 ans, on n'a pas le temps d'avoir trop de problèmes encore. Mais malgré tout, j'ai été très interpellé par ce que j'ai entendu parce que j'ai compris plein, 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 plein de choses par rapport à ces logiques différentes, ces fonctionnements différents, masculins, féminins. Et ça m'a énormément parlé parce que j'ai grandi dans un environnement très féminin parce que mes parents sont séparés à ma naissance. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble parce que ma mère m'avait juste dit, papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et donc j'ai grandi avec ma mère et 3 grandes sœurs. J'étais le petit dernier à ce moment-là dans cette fratrie. Et donc les questions de masculin et de féminin étaient très importantes parce que je me sentais un petit peu différent de mes sœurs et de ma mère. Et je n'avais pas de figure paternelle en face pour voir un petit peu en quoi pouvait être cette différence. Et en entendant John Gray, j'ai compris en fait vraiment que beaucoup de ces incompréhensions que je pouvais avoir eues dans mon enfance étaient aussi liées justement à ces logiques masculines et féminines qui sont un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que je pense que ça m'a plus parlé qu'à d'autres personnes. Et j'ai vraiment creusé ce sujet et puis ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre ce féminin et à mieux accepter aussi parce que il y a des moments au début de la relation quand ma femme Corinne parlait au téléphone, expliquait à ses copines pendant des heures tout ce qu'elle avait fait. Je me demandais mais pourquoi est-ce qu'elle perd son temps à parler au téléphone. En fait, j'ai compris qu'elle perdait pas du tout son temps, que pour elle c'était un vrai plaisir et un vrai besoin d'échanger aussi au niveau de ses émotions et de ses sentiments, alors que c'était moins un besoin dans mon esprit masculin qui est plutôt quand on appelle c'est pour dire pour partager des informations, pour
Oui.
être dans les faits et pas spécialement dans l'émotion. Donc comprendre déjà ce double en langage a été très très important pour moi et c'est comme ça que j'en suis venu à animer des séminaires, des conférences et tout. Et puis j'ai eu l'idée en 2006 de faire un one-man show, un spectacle pour partager tout ça de manière ludique parce que ce sont des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas spécialement graves. Et si on peut en parler aussi avec un petit peu de légèreté et d'humour, je pense que ça peut faire aussi aider à faire passer le message.
Et
Donc
alors,
voilà.
vous le disiez, c'est intéressant cette différence donc, qui est mise en exergue entre les hommes et les femmes. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, je les invite à aller chercher les DVD ou éventuellement aussi la bande dessinée. Il y a cette différence entre hommes et femmes, alors qu'on voit effectivement soit au sein de la famille, soit au sein du couple, mais aussi en entreprise, en fait.
L'entreprise. Oui, en fait, l'idée, c'est pas tellement hommes et femmes, c'est surtout ces deux polarités masculines et féminines qu'on a chacun de nous. Et l'idée, c'est de respecter ces deux polarités. Moi, je suis. Pour le bilinguisme, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse comprendre ces deux langages différents, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, parce qu'on a chacun une proportion plus ou moins masculine et féminine en chacun de nous. Et l'idée, c'est plutôt de comprendre et d'être parfaitement bilingue et de respecter les deux langues, plutôt que d'inventer une sorte d'espéranto du couple qui serait, ou du couple ou de l'entreprise ou de la vie à deux, qui serait une espèce de langage qu'on inventerait maintenant, mais qui n'aurait pas ses racines plus profondes. Et je pense que l'idée, notamment dans l'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce bilinguisme parce que c'est vrai qu'on sort d'une société qui était où le masculin était la philosophie dominante, hein. Depuis la révolution industrielle, ben, le monde a été créé par des mecs pour des mecs et donc c'est normal qu'ils étaient entre eux, personne en face ne pouvait leur dire qu'on pouvait faire autrement, donc c'est normal qu'ils aient créé un monde qui corresponde à leur manière naturelle de fonctionner. Et à cette époque-là, ben, il était clair que les hommes c'était bien et que les femmes c'était quand même un petit peu moins bien. Hein, on parle d'une époque où on avait pesé le cerveau des hommes et des femmes, et comme le cerveau des femmes est plus léger, on avait dit qu'effectivement elles devaient sûrement être un petit peu moins intelligentes que les hommes. Donc oui, on a fait du chemin quand même
Oui,
depuis, il faut voir
heureusement.
d'où on vient quand même. Et puis, ben, heureusement, certaines femmes féministes ont commencé à s'élever contre cette infériorité dans laquelle elles étaient placées. Elles se sont battues pour montrer qu'elles étaient légales des hommes. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de se battre sur le terrain des hommes avec les règles du jeu masculines, qui étaient les seules règles du jeu reconnues, en vigueur, acceptées, acceptables dans ce monde qui avait été créé. Et certaines l'ont fait avec un certain succès, parce que c'est très facile pour une femme de parler le masculin aussi, hein. Donc c'est ça que l'idée, c'est que c'est pas les hommes et les femmes, c'est une femme est tout à fait capable de parler très très bien le masculin, et heureusement, et tant mieux, il n'y a pas de problème avec ça, évidemment. Et donc certaines femmes l'ont fait très très bien, et grâce à ces femmes pionnières-là, l'idée de l'égalité entre hommes et femmes a pu avancer un petit peu. Et je pense, pour moi, l'archétype de ce type de femmes dont je vous parle, qui ont fait carrière et qui s'en sont vraiment battues pour montrer qu'elles étaient légales des hommes, c'est Margaret Thatcher, qui était une figure emblématique de ça. Alors le problème, c'est que c'était peut-être une femme, mais il n'y avait pas grand-chose de féminin dans sa manière d'être et de se comporter. C'est pas du tout une critique, hein, c'est juste un constat. C'est que pour arriver à ces niveaux de pouvoir-là, il fallait qu'elle soit comme ça. Si elle avait été autrement, elle ne serait jamais arrivée là où elle était. Et je pense que grâce à ces femmes-là, grâce à ces femmes pionnières, l'idée de l'égalité entre hommes et femmes a pu avancer un petit peu. Alors, c'est pas encore acquis partout dans le monde entier, dans toutes les cultures. Donc, je sais qu'il y a encore du travail, qu'on n'y est pas encore complètement, mais je pense que cette idée avance quand même. Mon idée, mon étape, c'est que pour continuer à la faire avancer, je crois qu'on peut reconnaître maintenant qu'on sait ou qu'on approche cette égalité entre hommes et femmes. On peut aller une étape un petit peu plus loin maintenant et qu'on peut reconnaître qu'on peut être égaux et différents. Et que égal ne veut pas dire semblable. Et que c'est plus dans le respect de nos différences de ce qu'on est chacun de nous dans nos êtres profonds, sans mettre de jugement de valeur entre une chose qui est bien et l'autre qui est moins bien, mais c'est dans ce respect profond de chacun de ce qui on est qu'on peut plutôt facilement trouver une entente, plutôt que d'obliger quelqu'un à devenir différent de ce qu'il est pour être respecté dans l'entreprise, dans la famille, dans l'environnement, dans lequel il est. Et je pense, c'est vrai que les minorités sont en train de se battre pour ça, pour être respectées dans ce qu'elles sont. Je pense qu'entre mes femmes, le débat de vouloir absolument gommer toutes les différences et dire qu'on est tous, comme puisqu'on est égaux, il ne doit plus y avoir de différence, est un peu en contradiction justement avec des luttes des minorités qui essayent d'être respectées dans ce qu'elles sont elles. Et moi, je crois que c'est plus à la société aujourd'hui à évoluer et à respecter autant le masculin que le féminin, plutôt que d'obliger les gens à changer pour pouvoir s'adapter à la culture dominante. Et donc, c'est dans ce principe-là, parce que le problème n'est pas spécialement la différence qu'il peut y avoir. Le problème, c'est la hiérarchisation qu'on fait par rapport à ces différences. Si on abolissait la hiérarchisation, il n'y aurait pas de problème à accepter nos différences, en fait. Et c'est, je crois, ce combat-là qui peut être intéressant en entreprise aussi. Et c'est là où ça peut être intéressant pour les entreprises de comprendre un petit peu, justement, ces logiques masculines et féminines un petit peu différentes pour que chacun puisse être respecté et que les femmes ne doivent plus devenir comme des mecs pour être acceptées et respectées dans l'entreprise. Donc, c'est pas les femmes qui doivent changer, c'est la culture d'entreprise qui, à mon avis, peut évoluer pour que autant le masculin que le féminin soient acceptés. Donc, l'idée, c'est pas du tout de dire maintenant qu'il n'y a que le féminin et puis le masculin, on fout tout à la poubelle parce que c'est tous des cons. Hein. Mais justement, c'est de trouver cet équilibre et ce respect des deux en soi, dans les entreprises, dans la culture, dans la culture dans laquelle on est.
Alors justement, vous intervenez en entreprise aussi, oui. Et vous sentez cette ouverture depuis ces dernières années ?
Je pense qu'il y a quand même, alors ça dépend très fort évidemment des cultures de l'entreprise, du chef d'entreprise, de la manière justement dont, et moi je crois que ça part de la tête, ça part des actionnaires, ça part du chef d'entreprise qui va inculquer ou non cette évolution-là, mais je vois qu'il y a vraiment, il y a de vraies évolutions quand même, c'est marrant par exemple… Oui, il y a des métiers qui sont en train d'évoluer un petit peu. Il y avait la DRH à Sochaux de Peugeot qui me disait, en 10 ans, par exemple, un métier qui était assez typiquement masculin, c'est les caristes. Donc les conducteurs de chariots élévateurs, pendant des années, ça n'était que des hommes. Et depuis une dizaine d'années, maintenant, ce ne sont plus que des femmes.
Ah oui.
Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était bien plus efficace que ce soit des femmes qui conduisent ces engins-là, parce qu'au moins, ils ne faisaient pas la course entre eux dans l'entrepôt pour savoir qui allait le plus vite. Ils n'étaient pas en train de vouloir en mettre encore plus sur le chariot et puis le truc se pète la gueule pour savoir qui a mis le plus, etc. Et donc, c'est là où on voit que des caractéristiques dites féminines, en fait, peuvent parfois devenir un avantage aussi. On le voit aussi, par exemple, pour des chauffeurs d'autocar. Où on commence à avoir un autre regard par rapport à avant, c'était les femmes conduisent pas, etc. Je crois que c'est vraiment en train de changer. Et notamment, j'ai entendu pas mal de témoignages de gens qui me disaient, mais moi, je suis rassuré quand c'est une femme qui conduit parce que au moins, je sais qu'elle va pas boire, qu'elle, si elle est fatiguée, elle va s'arrêter. Vous voyez, donc il y a d'autres valeurs qui sont importantes maintenant dans des métiers qui incluent aussi ces caractéristiques plus féminines.
C'est encourageant et ça montre effectivement l'évolution de la société en fait.
Oui, parce que notamment, par exemple, justement, dans l'entreprise, enfin, une des caractéristiques, de nouveau, c'est les grandes règles, hein, les grandes différences entre le masculin et le féminin, évidemment, qu'on peut discuter tout plein, hein, parce que l'idée, c'est pas dit, évidemment, c'est pas les hommes et les femmes, hein, ce sont des grandes tendances qu'on peut retrouver entre ces polarités masculines et féminines. Mais c'est vrai qu'une des grosses tendances qu'on peut avoir, c'est que le masculin, quand il a un problème, lui, il n'aime pas tellement parler de ses problèmes. Parce qu'en masculin, parler d'un problème, c'est révéler au monde son incompétence ou son incapacité à le résoudre. Or, le masculin se définit plutôt par sa compétence à faire les choses. C'est pour ça qu'il est plutôt toujours en action, vouloir montrer qui a couru le plus vite, qui a sauté le plus haut, etc. Enfin, il est toujours un peu dans cette course-là. Et donc, il ne veut pas apparaître incompétent et donc il va essayer plutôt de résoudre ses problèmes tout seul. Mais ça, c'est sa caractéristique, voilà, est tout à fait légitime. Le problème qu'il peut y avoir en entreprise aujourd'hui, ça peut devenir très dangereux d'être dans une culture où on ne partage pas ses problèmes, où on essaie de résoudre ses problèmes tout seul, alors que justement, il faut être dans un environnement aujourd'hui plus ouvert, où on va aborder les problèmes sont ouverts, enfin, il est plus question de rester avec des caractéristiques comme ça qui peuvent être handicapantes dans l'entreprise.
D'ailleurs, vous parliez alors du bilinguisme, qui est, je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite, mais qui est un concept très, très intéressant. Et comme vous le disiez, c'est pas, l'idée n'est pas clairement d'opposer l'homme et la femme et d'opposer un langage de femme contre un langage d'homme. C'est un langage féminin et un langage masculin que chacun peut s'approprier. Mais à la base, on a parfois, souvent, pas la connaissance de l'autre langage, en fait.
C'est ça. En fait, les problèmes arrivent bien souvent, c'est quand il y en a un qui parle masculin et l'autre qui répond en féminin. C'est un peu. Alors, quand il y en a un qui parle anglais et l'autre français, on sait bien qu'on parle une langue différente. Donc, on peut essayer parfois de se dire, ah tiens, il parle pas la même langue. Et c'est pas grave. On va essayer de prendre un dictionnaire. On va essayer de comprendre ce que l'autre dit. On va être attentif à ce que l'autre a bien compris ce qu'on a voulu dire. Et le problème, c'est que quand on est deux et deux en train de parler français, on ne prend plus ces précautions-là et on imagine que ce que l'autre dit, ce qu'on dit à l'autre, ben, il va le comprendre de la manière dont on avait voulu l'exprimer. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Par exemple, le féminin qui est plutôt à exprimer son ressenti, son émotion, peut dire quelque chose du genre au bureau, oh, j'en peux plus, j'ai 1 000 choses à faire. Et puis, il y a un collaborateur à côté qui va dire, mais non, t'as pas 1 000 choses, t'en as 12, regarde ta liste, pourquoi tu dis 1 000 quand c'est 12, pourquoi tu exagères, c'est pas vrai ce que tu dis, vous voyez, parce que le masculin, lui, est attaché aux faits et plutôt dans le factuel quand il parle. Et donc, il comprend pas que le féminin puisse être parfois dans le. Alors, le féminin, une femme peut essayer d'être factuelle. Hein. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas factuelles, mais il peut arriver qu'une femme puisse ne parle pas masculin à ce moment-là, qu'elle parle plutôt féminin en étant dans l'émotionnel. Et ça, si on ne comprend pas ce décalage-là, évidemment, il va y avoir une incompréhension. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement décoder tous ces moments-là. On dit, ah, tu vois, okay, elle est juste en train de parler de l'émotion. Et elle a simplement, quand une femme parle comme ça de son ressenti, elle a simplement besoin de se sentir comprise par rapport à l'émotion engendrée par une lourde charge de travail. Vous voyez, c'est pas du tout qu'elle a besoin d'une solution ou qu'elle est débordée. Enfin, elle a juste besoin de se sentir comprise par rapport à cette émotion-là. Et donc, ça, c'est si le partenaire en face ou le collaborateur, le patron ne le comprend pas, ben, ça amène pas mal de frustration.
Oui, c'est ça. Et de décalage, du coup, de vrais problèmes de communication qui peuvent après créer des solutions.
C'est ça. Et le truc, c'est qu'une petite chose, moi, je pense que toutes ces petites choses-là sont comme une goutte d'eau qui tombe sur une roche, qui jour après jour, mois après mois, année après année, elles vont finir par faire des trous dans la roche la plus solide. Et donc, tous ces petits trucs-là ne sont pas graves en soi, mais à terme, c'est ça qui peut vraiment poser de véritables problèmes. Des personnes qui démissionnent parce qu'elles ne se sentent plus respectées, alors que l'autre a l'impression d'avoir tout fait pour qu'elles soient respectées et vice-versa. Donc, et c'est là où on arrive parfois à des situations qui sont dommages par rapport à des petits trucs du quotidien qui peuvent être facilement compris si on comprend un peu ces langages masculins et féminins qui sont différents.
Oui, c'est ça. On peut, à travers donc l'apprentissage au fond de ce bilinguisme, éviter d'incompréhensions et plein de frustrations, parce que c'est vrai que ça crée, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, où une femme va juste exprimer son émotionnel et un homme va venir lui donner un conseil et où la femme va se dire, mais je t'ai pas demandé de conseil, juste écoute-moi. Et lui va se sentir atteint peut-être aussi parce qu'il ne comprend pas qu'on refuse son conseil.
On n'accepte pas sa solution,
Oui.
c'est ça. Parce que, en fait, pour lui, en masculin, je disais tout à l'heure, si on ne parle pas de ses problèmes, si on parle d'un problème, c'est qu'on demande une solution. Et donc, quand on reste dans notre logique masculine, si on entend une femme en face de nous parler d'un problème, on se dit, ben, elle essaie de trouver toute seule la solution, elle n'y est pas parvenue, elle demande à quelqu'un de plus compétent qu'elle, moi, c'est assez logique, donc il est tout content de pouvoir montrer sa compétence. Et puis, donc, il arrive tout fier avec sa solution, et puis elle l'envoie à la gare. Il dit, ben, c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle veut parler d'un problème si elle ne veut pas de solution?
Oui.
Et donc, ça crée énormément ça peut créer beaucoup de petits problèmes. Une autre différence, par exemple, entre ces côtés masculins et féminins aussi, c'est que le masculin a plutôt tendance à s'occuper de ses besoins à lui d'abord, alors que le féminin a plutôt tendance à s'occuper des autres, à être attentif aux besoins des autres avant les siens. En féminin, vous voyez, je m'occupe des autres, d'autres s'occupent de moi, par jeu de vase communicant, tout le monde est content. Alors qu'en masculin, ben chacun s'occupe de lui d'abord. Par exemple, on peut le voir à la maison, vous voyez, si une mère sait que ses enfants aiment bien le blanc de poulet, elle aime bien le blanc de poulet aussi, mais naturellement, elle aura plutôt tendance à prendre la cuisse. Oui, parce que, et on va peut-être qu'elle s'attend peut-être à ce que quelqu'un lui propose, mais est-ce que tu veux quand même un bout de blanc? Oui, mais elle va pas le prendre toute seule. Alors que lui, un homme qui voit le blanc de poulet, il l'aime bien, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, oui, il va pas se poser de questions. Alors, c'est comme ça que beaucoup de femmes trouvent que les hommes sont égoïstes. Oui, ils pensent à lui d'abord, etc. Parce que dans beaucoup de relations, c'est vrai dans le couple, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise. Des femmes sont là et disent, mais il voit bien que j'aurais besoin de ça et ça. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le propose pas? Etc. Et la réaction masculine, c'est de dire, ben, si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à me le demander. Et la logique féminine, c'est de dire, non, si je dois te le demander, c'est trop tard. Il faudrait que tu le vois avant que j'aie à le demander. Et donc, c'est dans cette attente-là dans laquelle beaucoup de femmes sont, qui sont très pénalisantes pour elles dans l'entreprise aussi, et qu'un homme ne comprend pas dans sa logique à lui.
Et donc, vous aidez en fait à ce qu'on se comprenne mieux.
Voilà, alors l'idée, effectivement, c'est dans ce cas de figure-là, c'est essayer d'apprendre aux hommes à être un petit peu attentifs, justement aux besoins qui ne sont pas clairement exprimés, mais justement d'être attentif à ce féminin-là, de prendre des initiatives, justement. Oui, et c'était très touchant. Il y avait le patron d'une grosse PME, enfin, une moyenne entreprise, il y avait 800 femmes dans son entreprise. Qui fonctionnait très très bien. Et il avait fait un jour un témoignage qui était assez émouvant par rapport à dans un groupe de chefs d'entreprise. Il avait dit, mais moi, quand une de mes collaboratrices doit me demander quelque chose, je le prends comme un échec parce que ça veut dire que j'ai pas été capable de l'anticiper. Et donc, vous voyez, il y a des chefs d'entreprise qui ont compris plus ou moins intuitivement, vous voyez, cette démarche-là, d'autres pas, hein. C'est pas tout le monde, mais vous voyez, c'est là où on voit que cette culture-là est en train de se mettre en place. Et peut-être que ça peut être intéressant de comprendre ce truc tout bête, hein, de cette logique différente, peut expliquer, à mon sens, un truc qui est totalement injuste, c'est notamment le fait que les femmes soient moins payées que les hommes, question salariale. Alors, il y a plein d'études qui disent qu'il y a un plafond de verre, on empêche les femmes d'eux, etc. Probablement, il y a sûrement des salauds. Enfin, je veux pas. Sûrement qu'il y a des machistes dans les entreprises. Hein, je veux pas du tout le dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus insidieux et qui est beaucoup plus difficile à quantifier. C'est que si certaines femmes sont moins payées, c'est tout simplement parce qu'elles le demandent moins. En fait, dans la logique féminine, certaines femmes peuvent être là en disant, mais il voit bien tout ce que je fais. Un jour, avec tout ce que je fais, il va me proposer une augmentation. La logique du patron masculine, si c'est un patron, hein, masculin, c'est de dire, ben, tu veux pas mal tout ce qu'elle fait pour le prix que je la paye, bien joué, hein, tant qu'elle demande rien, c'est qu'elle est contente. Et le problème, c'est que ben, elle va assumer, enfin, elle va faire, il y a du ressentiment qui va monter, qui va grandir en elle pendant un an, pendant 2 ans, alors il va me la proposer, cette augmentation, et lui, il va quand même venir me le dire, me le demander, etc., me le proposer, tout. Et à un moment donné, elle n'en peut plus, et elle va alors peut-être aller le voir, son patron, et lui dire, écoute, maintenant, tu vas me la donner, mon augmentation, ou quelque chose un peu du genre. Le problème, c'est elle va le demander de manière assez agressive ou assez forte, et lui, il se dit, ben, pourquoi est-ce qu'elle vient tout d'un coup? C'est quoi son problème tout d'un coup? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas me demander ça normalement, gentiment? Lui, ce qu'il ne rend pas compte, c'est que cette agressivité ou cette nervosité vient de 2 ans d'avoir dû ronger son frein, qu'il ne lui ait pas demandé pendant 2 ans alors qu'elle aurait bien voulu qu'il le demande, qu'il lui propose. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces petites incompréhensions-là peuvent vraiment créer des problèmes. Pour donner un exemple, c'est une femme qui avait une petite entreprise d'une quinzaine de personnes. Et il y avait 12 femmes dans son entreprise et 3 hommes. Et cette femme, patron, me dit, pendant des années, on a été un peu en difficulté, c'était compliqué, il n'y avait pas de budget pour augmenter personne. Mais chaque année, malgré tout, il y avait un des 3 hommes qui venait demander une augmentation. Et elle disait non, donc voilà, puis lui, il acceptait. Vous voyez, on demande et on dit oui, on dit non, il n'y a pas de problème. Dans l'esprit masculin, c'est comme ça. Le problème, c'est que la 4e année, il y a eu un petit peu de budget. Et c'est une femme qui me le dit, elle me dit, malheureusement, j'ai été piégée un petit peu malgré moi parce que j'ai avantagé un petit peu celui qui m'avait déjà demandé 3 fois par rapport à ceux qui ne m'ont jamais demandé. Et vous voyez, c'est cette manière insidieuse-là. Et c'est là où c'est pas dans les différences entre les hommes et les femmes, c'est dans la culture d'entreprise, dans le respect de nos fonctionnements qui sont un petit peu différents, dans le respect de chacun pour essayer d'être le plus équilibré et le plus juste possible dans les décisions qu'on peut prendre en entreprise.
Donc là, dans ce que j'entends, il est bon pour se comprendre d'apprendre le langage de l'autre, de comprendre surtout le langage de l'autre, mais alors pour mieux comprendre l'autre et mieux communiquer, mais aussi pour soi en fait.
Oui, tout à fait.
Effectivement.
Pour pouvoir avoir, et c'est là où effectivement, autant pour les hommes, c'est important de comprendre ce langage féminin et d'être capable d'anticiper les demandes, mais c'est tout aussi important pour une femme de comprendre aussi la logique masculine sans être fâchée contre ça, parce que c'est comme ça, oui, alors on peut râler dessus et tout ça, mais bon, voilà. Mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est ce que le féminin peut faire dans ces moments-là, c'est apprendre à demander. Et la demande, et je sais que c'est une des planches dans la BD qui est un peu rigolote, c'est justement d'apprendre à demander. Beaucoup de femmes ont une difficulté à demander parce que d'une part elles se disent je ne devrais pas avoir à demander, donc elles sont déjà un petit peu énervées quand elles demandent. Et la deuxième chose aussi, c'est que elles demandent parfois, souvent de manière indirecte. Du genre tiens, la poubelle est pleine, tiens, il y a ce dossier là à terminer. Oui. Dans l'esprit masculin, c'est une information, oui, c'est pas une demande. Et donc, il vaut bien mieux demander de manière directe. Ça, c'est très, très important parce que le masculin ne comprend pas ces demandes indirectes, on ne comprend pas trop. Et puis aussi, il y a un truc tout bête, c'est que beaucoup de femmes vont demander est-ce que tu pourrais finir ce dossier, est-ce que tu pourrais aller ranger ça, est-ce que tu pourrais vider la poubelle dans la maison, des choses comme ça. Et souvent, les hommes disent oui. Hein. Oui, parce qu'ils répondent à la question, oui, je peux.
Mais ils ne le font pas.
Parce que je vais le faire. Et donc, en fait, quand le féminin demande est-ce que tu peux, elle met en doute, elle questionne notre capacité à le faire, mais pas notre volonté à le faire. Et donc, c'est un truc qui est tout à fait idiot, mais c'est extrêmement important. En fait, quand vous demandez, mesdames, habituez-vous à demander est-ce que tu veux bien, est-ce que tu voudrais bien faire quelque chose. Parce que là, ça nous permet de nous engager ou non. Mais le truc, évidemment, quand on demande est-ce que tu veux bien, c'est qu'il faut que vous acceptiez aussi qu'on puisse dire non. Et ça peut parfois être un petit peu compliqué parce que très souvent, les femmes, justement, n'aiment pas demander. Et donc, elles sont juste aussi dans l'idée, c'est pas grave, je vais le faire, il n'y a pas de problème, j'ai envie d'aider, etc. Et donc, le truc, c'est qu'elles le font sans retenue au début. Mais à un moment donné, elles vont se rendre compte qu'elles ont fait plus et donc, elles vont commencer à demander. Mais elles vont commencer à demander quand elles sont débordées, quand elles ont l'impression déjà d'en avoir fait plus que l'autre. Et donc, elles n'acceptent plus le non à ce moment-là parce qu'elles ont l'impression, et c'est vrai, mais elles ont déjà de l'avance par rapport à tout ce qu'elles ont fait par rapport à leur partenaire ou à leur patron ou à leur collaborateur. Et donc, c'est là toute la subtilité de ça pour moi, c'est d'être capable justement d'apprendre à demander, même si vous le feriez. Oui, vous disciplinez pour demander le plus tôt possible, le plus souvent possible. L'intérêt, c'est que vous demandez quelque chose, il dit non, vous n'êtes pas fâché parce que de toute façon, vous l'auriez fait. À ce moment-là, vous êtes encore de bonne humeur, etc. Donc, ça va, vous encaissez le non. Et l'intérêt, c'est que vous marquez un point parce que vous le faites, mais nous, on sait que vous avez marqué un point. Et de nouveau, on a envie que la relation soit équilibrée. Je parle des gens de bonne volonté en couple qui ont envie que ça se passe bien ou dans l'entreprise qui sont dans un esprit d'ouverture et d'équilibre. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui veulent profiter des autres et tout ça, ça existe, mais on ne va pas parler de ça ici, c'est ça, tout à fait un autre sujet. Mais quand on est tous les deux de bonne volonté, l'homme sait que vous avez marqué le point et il ne veut pas que le score soit déséquilibré. Donc, quand c'est 2-3-0 pour vous, il va le faire, oui. Enfin, c'est pas un souci pour lui de participer. Si on lui demande, il le fait. Puis il y a pas de problème. Donc, c'est pas un problème de demander, mesdames. Et donc, si vous grandissez là-dedans, ça peut faire beaucoup pour la qualité de la relation aussi.
Et d'ailleurs, alors sur ces demandes, vous parliez de la BD. Il y a justement une planche qui s'appelle Petit bréviaire des demandes indirectes, où il y a un homme et une femme. Alors, je vais lire quelques cases, mais par exemple, elle commence à dire « Je ne comprends pas pourquoi la commande n'est-elle pas encore arrivée ?» Et lui, il répond « Aucune idée ». Et elle lui dit, tu veux bien appeler le fournisseur et voir où est le problème? Et là, on voit que l'homme ne s'attendait pas à cette question, parce qu'effectivement, elle n'a pas été directe tout de suite. Et là, il répond, ah, ok. Et on voit le dessin où il est soulagé.
Là, on demande quelque chose, parce qu'une information, le truc n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Oui,
Et voilà. tout comme après, elle lui dit, tu fais comme tu veux, de toute façon, c'est toi qui l'écris. Donc, une lettre.
Une lettre, oui.
Et lui répond, bon, dis-moi, et j'écris. Et là, elle lui répond, j'aimerais avoir ton avis sur cette formulation. Et lui, soulagé, ah, ça voulait dire ça.
Voilà.
Effectivement,
mais ça donc, voyez, c'est au quotidien, on ne se rend pas compte à quel point parfois, ouais, toutes ces demandes indirectes ou ces mots comme ça directement faits, en fait, c'est une peur simplement de demander simplement de l'aide et accepter qu'on puisse dire oui ou non. Et si on est plus simple là-dedans, ça va beaucoup plus facilement, évidemment, aussi. L'idée peut-être pour préciser par rapport aux femmes qui nous regardent, justement de cet égoïsme masculin aussi, je veux une petite précision par rapport à ça, c'est où le masculin s'occupe effectivement de lui, etc. Alors oui, ça peut apparaître comme ça, mais j'ai peut-être apporté un autre regard, peut-être qui sera peut-être plus indulgent par rapport à cette caractéristique masculine, justement, de ne pas en voir qu'un défaut. C'est que quand on prend l'avion, bon, pour le moment, c'est un peu plus difficile, mais quand même, vous vous souvenez, quand vous preniez souvent l'avion,
oui.
quand on les mesures de sécurité, quand le personnel de bord de cabine nous explique les normes de sécurité en cas de dépressurisation de l'appareil, des masques à oxygène tomberont automatiquement. Mettez votre masque et si vous êtes accompagné avec quelqu'un qui a besoin d'aide, mettez d'abord votre masque et puis mettez le masque de votre enfant ou d'une personne âgée à côté de vous. L'idée, c'est que, vous voyez, c'est si je m'occupe de moi, mais je ne suis pas un poids pour les autres et je peux aider les autres. Si je ne suis plus en capacité d'aider les autres, je ne sers plus à rien. Donc, vous voyez, c'est pas un côté égoïste qui dit je ne pense qu'à ma gueule. C'est aussi un truc de dire, ben, si tout le monde, si je fais en sorte d'être bien et d'être autosuffisant et tout ça, ben, je peux aider les autres et je ne suis pas un poids ou une charge pour la communauté ou pour la famille ou pour l'entreprise. Donc, c'est peut-être cet éclairage-là peut permettre d'avoir un côté peut-être un petit peu plus indulgent par rapport à cette caractéristique masculine un peu agaçante pour beaucoup de femmes.
Pour rester sur le masculin, je parlerais bien d'une autre planche de votre bande dessinée. Donc, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc, c'est le tome 3 là dont on parle. Mm-hmm. Et qui est quelques règles tacites masculines au sein de l'entreprise où on voit que les hommes ayant le même langage, là où des femmes comprendraient pas forcément leur réaction. Alors je pense notamment on voit un homme qui est devant son ordinateur et qui semble un peu perdu et derrière un de ses collègues qui passe et il est indiqué proposer de l'aide à un homme implique qu'on l'estime incapable de parvenir seul à résoudre le problème. Et du coup on comprend que son collègue ne va pas l'aider puisque lui connaissant cette idée là il ne va pas s'immiscer.
Voilà. Et c'est là où, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons et aimé au sens large dans le couple, c'est évident, mais dans l'entreprise aussi, apprécié, etc. En fait, le féminin, pour se sentir aimé, a besoin de petites attentions au quotidien et notamment de la sollicitude, justement, de la prévenance, d'être attentif à ses besoins. Et donc, c'est vrai que pour une femme, voir laisser une collègue qui a l'air d'avoir des problèmes passer son chemin sans lui poser une question, sans rien dire, c'est complètement aberrant. Mais dans cette logique féminine, on se dit mais elle se fout de ses collègues, elle se fout de ses collaboratrices. C'est vraiment une mauvaise manager, quoi. Alors qu'en masculin, nous, quand on a un problème, on en a déjà parlé, on essaie de résoudre nos problèmes tout seul. Et l'idée, c'est nous, on a besoin plutôt de confiance. Et la confiance qu'on peut accorder à ses collaborateurs, c'est de se dire, ben, s'il a un problème et qu'il a besoin de moi, je serai là pour lui demander, mais je lui fais confiance qu'il est suffisamment compétent pour résoudre son problème. Et donc, c'est une preuve justement élégante en masculin de ne pas souligner le mec et de ne pas lui mettre le nez dedans, en fait, dans cette logique-là. Et c'est là où on peut voir qu'on peut être effectivement de bonne volonté chacun et on peut se planter complètement. Vous avez une patronne qui a des collaborateurs et qui va être très justement dans les petites attentions, dans la compréhension, est-ce que tout va bien? Elle va venir régulièrement poser des questions, comment avancent les dossiers, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que si, est-ce que là? Elle a l'impression d'être extraordinaire en tant que manager et son collaborateur, elle lui dit, mais fous-moi la paix, tu ne me fais pas confiance, tu crois que je ne suis pas capable de gérer le dossier, pourquoi tu viens m'emmerder à me poser des questions toutes les 5 minutes? À l'inverse, une collaboratrice peut parfois être frustrée d'être avec un patron qui ne lui pose jamais une question, qui ne lui demande pas comment ça va, qui ne lui pose pas, qui lui demande pas, qui lui demande rien du tout. Ça peut être extrêmement frustrant pour elle parce qu'elle va dire, mais il s'en fout. En fait, moi, je pourrais ne pas être là et il n'en a rien à foutre. Donc, vous voyez, c'est ce regard qu'on peut porter, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est l'interprétation que l'autre va faire par rapport à, notamment à cette clé du masculin et du féminin.
Et alors, peut-être la dernière planche, j'invite notre public à aller voir vos bandes dessinées parce qu'elles illustrent très bien et avec beaucoup d'humour ces différences et notamment d'interprétation. Et il y a une planche sur la mauvaise interprétation. Alors, j'aimais bien l'aide oui. Où on voit une jeune femme, enfin une femme en train de ranger des livres et derrière un homme qui est en train de penser et il se dit tiens, on dirait que Nathalie a besoin d'aide et puis en même temps si je lui propose de l'aide, je sous-entends qu'elle est trop faible pour s'en sortir seule. Alors ça, c'est une interprétation masculine, mais c'est vrai que moi je l'ai mis en perspective en le lisant, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, sur la société actuelle où cette idée que les femmes sont aussi fortes justement dans cette envie d'égalité, même si moi je crois plus au terme d'équité. où effectivement aujourd'hui les hommes parfois peuvent se dire bon bah non, je peux. Intuitivement, ils iraient, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de se retrouver. Il y a ça aussi quand on rentre en compte.
C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est justement les hommes. Enfin, on commence vraiment à avoir peur les uns des autres. Enfin, je prends beaucoup d'hommes. Alors, le problème, c'est que justement, ceux qui n'ont pas peur, c'est peut-être ceux qui devraient avoir peur. ceux qui s'en foutent complètement, qui harcèlent, qui continuent à faire les petites violences quotidiennes qui sont horribles pour les femmes et qui sont enfin et c'est complètement horrible. Mais le problème c'est que alors ceux-là ne sont pas tellement impactés parce que eux ils sont un peu voilà, ils sont psychologiquement pas toujours complètement cadrés et donc voilà, ils vont continuer. Mais le problème c'est que tout ce qu'on met en place pour le moment pour éviter le harcèlement et tout ça, mais a beaucoup plus d'impact sur les hommes de bonne volonté qui ont envie d'une relation tout à fait saine et correcte, etc. Mais eux sont les premiers impactés parce qu'ils vont ne plus oser aller proposer leur aide parce qu'ils disent « là, on va croire que je vais la draguer » ou il y a des hommes maintenant qui n'osent plus monter dans l'ascenseur avec une femme qui serait seule dans les entreprises, etc. Donc, on arrive vraiment à des situations qui sont un petit peu… qui deviennent difficilement gérables. Et donc, c'est tout ça. Je crois qu'il faut qu'on… Enfin, idéalement, ce serait vraiment de retrouver un peu plus d'une envie commune et de bien-être. Mais justement, dans le problème du féminisme qui est de dire « nous sommes comme des hommes », etc., va faire en fait fait fuir aussi les hommes qui disent « on est tous des salauds et tout ». Bon, ben, donc on est en train, on se met un petit peu en retrait, mais… Beaucoup de femmes n'ont pas envie d'être en colère contre les hommes. Elles veulent être respectées dans ce qu'elles sont, mais n'ont pas du tout envie d'avoir des hommes qui s'éloignent complètement. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui de comprendre ce langage féminin et masculin, notamment. C'est que, notamment dans l'entre, enfin, pour beaucoup de femmes, c'est que les femmes sont historiquement, on développe un côté masculin quand même quand elles travaillent parce que c'est normal, c'est dès qu'il y a des objectifs à atteindre, il faut du factuel, etc. Donc c'est comme ça. Et donc elles ont appris à parler masculin et elles le font très très bien. Le problème c'est que elles ont d'autant plus, à mon sens, besoin d'être féminines dans leur vie personnelle qu'elles sont déjà un petit peu masculines dans leur vie professionnelle. Parce que si elles sont déjà masculines dans leur vie professionnelle, mais qu'en plus le soir on leur en remet une couche. mais ça devient de plus en plus dur pour elle. Et la difficulté, c'est que l'homme, lui, ne perçoit pas toujours ces différences masculin-féminin. Lui, il est habitué à des femmes masculines la journée, il retrouve une femme qui est un peu masculine chez lui le soir, il se dit, bon, on va continuer à parler masculin, il n'y a pas de problème, moi je connais. Et donc, c'est là où il y a des frustrations qui peuvent arriver de plus en plus, et où on ne se comprend plus parce que ce féminin, en fait, est mis un petit peu sous cap. Donc, je pense que c'est très, très important pour trouver notre équilibre aujourd'hui, c'est de bien comprendre pour que on puisse chacun être vraiment vivre pleinement tout notre être. Nos deux polarités, masculine et féminine, autant pour les hommes que pour les femmes. Et je pense que l'idée, vous voyez, pour moi, alors le débat arrive très souvent, notamment au niveau familial, sur la répartition des tâches. Mmh. Comme si les tâches étaient réparties à 50-50, on serait à l'égalité. Moi, évidemment qu'il faut répartir les tâches. Enfin, c'est un enjeu, mais c'est pas là où je placerais le débat de l'égalité ou de l'équité entre mes femmes. Moi, je le place plus dans le fait que c'est simplement la manière différente de s'occuper. Parce que si on s'occupera différemment de la cuisine, on s'occupera différemment de s'occuper des enfants. Oui, c'est pas dans le temps qu'on passe à le faire, c'est dans la manière de le faire et dans l'acceptation de la manière différente qu'on va avoir à partager ces tâches-là. Comme dans le travail aussi. Oui, il y a je me souviens, c'était un jour un chef d'entreprise qui me dit, il avait une grosse entreprise de transport, il y avait 1000 camions, je crois, dans son entreprise, et c'est une femme qui faisait le planning, et il disait, mais quand j'arrive dans la salle où il y a les tableaux de ça, je ne comprends rien, parce que c'est fait d'une manière qui pour lui était désorganisé, oui, dans sa logique à lui, mais ouais. Il respectait complètement le fait qu'elle s'y retrouvait complètement, ça marchait très très bien comme ça, et vous voyez, d'autres personnes pourraient être plus critiques en disant, moi je veux que tu t'organises comme moi je l'aurais fait. Oui, c'est là où il n'y a pas le respect. Mais c'est pas dans le fait de faire d'une manière ou d'une autre. Évidemment qu'on va le faire chacun à sa manière. Et l'idée, c'est d'accepter une manière différente de fonctionner, de trouver cette complémentarité là-dedans.
Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une belle conclusion et une belle invitation que vous faites à notre public. Merci beaucoup, Paul Devant. Et à très bientôt, peut-être pour les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 4.
Il y a toujours des choses à dire entre les hommes et les femmes.
Merci beaucoup.